Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Pour François Truffaut, l'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire. Pour Anaïs Nin, l'adolescence est un cactus et récemment, le magazine Télérama titré « Ado au bord de la crise de nerfs ». Bref, cette période de la vie serait un mauvais moment à passer, un chemin douloureux, épineux en attendant les joies de l'âge adulte. C'est en tout cas une période où l'on se pose une avalanche de questions des plus existentielles aux plus prosaïques. Ce matin, deux psychiatres répondent aux interrogations des adolescents, qu'il s'agisse de normalité, d'estime de soi, d'orientation sexuelle, de performance scolaire, d'usage des écrans, de consommation de drogue ou d'alcool. Avec nous, David Groison du mensuel Phosphore et les psychiatres Marie-Claude Gavard et David Gourion. Standard ouvert au 01 45 24 7000. Parents et adolescents sont attendus de pied ferme. Vous pouvez également nous contacter sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Honorable professeur de philosophie, au menu de votre ordonnance ce mercredi.
Eh bien, on va essayer de faire un petit peu de philosophie pour soigner la crise d'adolescence. On va voir si ça marche.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Une période de transition, on ne peut pas dire ça commence aujourd'hui, ça finit aujourd'hui. On peut dire que l'adolescence est une période de transition, comme je vous le disais, entre l'enfance, bien sûr, et l'âge adulte. Mais l'adolescent ne se conçoit pas sans ses relations. Il faut dire qu'il y a adolescence à partir du moment où un garçon ou une fille sont beaucoup plus intéressés par ce que pensent leurs camarades que ce que pensent leurs parents. Or, il y a toute une période entre 8-9 ans et 13-14 ans, où commence vraiment l'adolescence, où l'enfant est intéressé par les deux presque autant. Et avec l'adolescence, ce sont les camarades et ce qu'ils pensent qui priment sur, même sur leur jugement, en tout cas sur les jugements qu'ils vont afficher.
Françoise Dolto en 1969. Bonjour David Gourion.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, ancien chef de clinique à l'hôpital Sainte-Anne. Vous publiez avec le dessinateur Museau chez Odile Jacob, Dr Feelgood, la première consultation psy pour ados en bande dessinée. Bonjour Dr Marie-Claude Gavard.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste et vous avez publié chez Marabout « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» sous-titré « Colère, émotion, déprime, conflit, tous les conseils pour s'en sortir ». Bonjour David Groison.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Phosphore, destiné aux 14-19 ans, et à la une ce mois-ci, c'est quoi le bonheur ?
Exactement.
On y reviendra tout à l'heure. Elle vous semble toujours d'actualité, cette définition de l'adolescence de la psychanalyste Françoise Dolto, Marie-Claude Gavard ?
Alors, je trouve un petit peu gênant de n'en parler que comme une transition, parce que c'est une période de vie extrêmement intéressante, importante, et ce n'est pas qu'une transition entre enfance et adulte.
David Gourion.
Oui, tout à fait d'accord. Mais Françoise Dolto a apporté des choses énormes, hein, quand même, au domaine. Il faut pas lui enlever ça. Mais elle décrit quelque chose qu'on nommerait aujourd'hui la cognition sociale. C'est en effet à l'adolescence qu'on se met à mieux comprendre, à mieux interagir avec les autres et surtout à essayer de définir sa place. Donc elle évoque là un sujet qui est en effet un sujet de préoccupation centrale pour les adolescents, on en parlera. Et puis la cognition sociale, elle s'est enrichie avec l'interface internet, j'ose dire. Donc ça rend les choses encore plus complexes, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très multidimensionnel l'adolescence et pas uniquement une phase de transition.
David Groison.
Puis la question, c'est aussi, ça veut dire quoi être adulte ? C'est-à-dire la transition entre enfance et être adulte. C'est vrai que nous, nos lecteurs, les ados, quand on leur pose cette question-là, ben il y a autant de définitions, sans doute, que de définitions de l'adolescence. Est-ce que c'est avoir des enfants ? Est-ce que c'est gagner sa vie ? Est-ce que c'est avoir une maison ? Enfin voilà, c'est une question qui nous renvoie à chacun de nous assez forte.
Avec nous trois adolescents en studio, bonjour Gabriel.
Bonjour.
Tu reviens en deuxième semaine, tu peux te présenter à nouveau ?
J'ai 14 ans et je suis en troisième.
Où ?
À Auvers-sur-Oise, dans le 95.
Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Tu peux te présenter ?
Oui, alors je m'appelle Gabriel, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège Henri Matisse dans le 92 à Issy-les-Moulineaux.
Bonjour Zoé, qui es-tu ?
Bonjour, alors je suis j'ai 15 ans, je suis à Jeanne d'Albret à Saint-Germain-en-Laye et voilà, je suis en première.
Elle vous semble juste la définition de l'adolescence de Françoise Dolto que l'on vient d'entendre, Gabriel ?
Juste, oui, mais il manque des choses. Je pense que c'est pas totalement vrai.
Qu'est-ce qui manque?
Qu'est-ce qui manque? Il n'y a pas que ça. Voilà. Il manque des choses. C'est vrai qu'il y a une forte transition de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et tout change, en fait.
Gabriel?
Bah oui, on se pose beaucoup de questions. Parce que justement, il y a la transition. Notre corps change, nos idées changent, notre façon de voir le monde. Du coup, ouais, peut-être pas assez complète.
Zoé?
Je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas seulement une transition, c'est vraiment une période de la vie. Donc qu'il faut considérer plus comme une véritable... vraiment quelque chose où faut répondre à toutes ces questions et pas seulement se dire que c'est une passade et que plus tard, ça, on aura la réponse plus tard.
Marie-Claude Gavard, peut-être pas une transition, mais peut-être une nouvelle naissance?
Une nouvelle naissance, certainement, et une autonomisation, une découverte de sa propre personnalité, avec cet enthousiasme de cette découverte, et en même temps, cette angoisse, ce stress, ces points d'interrogation. Mais c'est une période passionnante et inquiétante.
David Gourion, les transformations hormonales vont affecter la vie biologique, psychique, sociale de l'adolescent?
Absolument. Donc il y a une maturation au cours de cette période-là. On l'a dit, le corps change, il y a cette maturation hormonale, mais aussi cette maturation cérébrale, émotionnelle, sociologique. Donc c'est vraiment une phase, comme vous le dites, extrêmement riche et complexe. Et il faut ajouter aussi que notre société est sans doute aussi beaucoup plus complexe aujourd'hui d'un certain point de vue qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
Alors je citais tout à l'heure François Truffaut, l'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire. Vous êtes d'accord avec cette vision un peu sombre de l'adolescence du réalisateur des 400 coups, Marie-Claude Gavard?
Alors certainement il y a des moments très difficiles, ne serait-ce qu'au niveau de l'affrontement avec les parents, avec les professeurs, etc. Mais c'est une période d'une grande intensité et d'une grande découverte. Donc c'est pour ça que je parle aussi de période passionnante, mais certainement difficile.
David Gourion.
Oui, tout à fait d'accord. Peut-être l'une des plus difficiles, mais aussi les plus exaltantes de la vie. En tout cas, on a un ancrage émotionnel tous vis-à-vis de notre adolescence qui reste très fort.
Il y a un baromètre par le groupe de réflexion vers le haut avec OpinionWay qui rappelait là, il y a quelques semaines, que 78% des 15-18 ans trouvent que qu'ils vont bien, qu'ils trouvent que leur vie correspond à leur attente, et il y en a autant qui sont optimistes par rapport à leur avenir. Donc c'est aussi, dans leur immense majorité, une génération qui va bien.
En 2014, un rapport de l'UNICEF indiquait que près de la moitié des adolescents français étaient en état de souffrance psychologique. 7000 adolescents ont été évoquer leur quotidien, leurs peines, leurs idées suicidaires et conduites addictives, avec des chiffres d'une ampleur inquiétante. 43% des jeunes de 15 ans et plus seraient en situation de souffrance psychologique, David Gourion.
Alors tout dépend la façon dont on définit la souffrance psychologique, mais si on reprend un peu toutes les études, notamment internationales, on a à peu près un adolescent sur 4 ou un adolescent sur 5 qui est réellement en difficulté psychologique, et pas uniquement dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de crise d'adolescence qui va passer, des vraies situations de souffrance. Malheureusement, l'actualité nous a montré récemment qu'on peut être adolescent et en très très grande souffrance, même vouloir mourir. Donc il y a une réalité, vous l'avez dit, la plupart vont bien. Hein. Je veux pas du tout dramatiser les choses, mais on va dire 1 sur 4, 1 sur 5 est en difficulté, et la question c'est comment on peut justement les aider, prévenir, dépister, repérer.
Oui, alors moi je trouve effectivement que c'est très important de s'inquiéter de la situation des adolescents, et en même temps, et je trouve qu'on ne le fait pas du tout suffisamment, on n'informe pas les parents de ce qu'ils pourraient faire. Il y a un manque d'information très important au niveau de la pédagogie et pour alléger les souffrances familiales, parce que la période d'adolescence engendre souvent des souffrances familiales, mais il y a un manque de connaissance des parents, et ça j'insiste là-dessus parce que ce serait tellement plus aisé.
Si je peux me permettre, moi je suis ravi qu'on ait des adolescents sur le plateau. On disait, les chiffres disent un adolescent sur 4 ou 1 sur 5 à peu près en difficulté. Est-ce que vous, dans vos classes respectives, donc une personne sur 4 ou sur 5, ça fait beaucoup, vous avez repéré des jeunes qui vous semblent aller pas bien?
Zoé?
Oui, après bon, je sais qu'il y en a peut-être
qui écoutent. On
peut
pas les noms, hein.
Mais oui, bien sûr. Malheureusement, je pense que ça reste assez présent, surtout avec Internet et tout ça. C'est encore plus compliqué de gérer les réputations, les rumeurs, les exemples aussi qu'on a autour de nous par rapport à l'adolescence et un peu aux bêtises qu'on fait. Donc voilà, c'est bien sûr, on en voit.
Gabrielle ?
Moi, je trouve que le plus difficile, c'est de voir qu'un adolescent va pas bien, parce que souvent, soit il a tendance à être très, très extraverti, soit il est très introverti, mais on a du mal à détecter quand même quand ça va pas.
Quel regard vous portez sur ce regard inquiet des adultes, sur vous autres adolescents, Gabriel?
Est-ce que vous pourriez répéter la question?
Quel regard tu portes sur notre propre regard? Regard inquiet sur l'adolescence.
Peut-être que les parents réagissent pas assez vite et pas bien. C'est vrai qu'il y a un manque d'information. Les parents ne savent pas tout. Les enfants cachent des choses aussi. Et à cause de ce manque d'information, les enfants se retrouvent dans des situations compliquées. Ils peuvent aller faire des choses graves et ça peut finir loin, quoi.
Mais est-ce que tu trouves qu'on porte un regard trop sombre sur l'adolescence, nous autres adultes ?
Non, je pense pas.
Gabrielle ?
Moi, je pense que ce regard, bah, il est justifié, mais après, ça a tendance à inquiéter encore plus les ados qui, eux, bah, ils vivent leur vie, mais qu'on leur dise qu'on est dans une période compliquée et tout, ça les amène à se poser encore plus de questions. Mais après, il est important, le regard, quand même.
Nous sommes anxiogènes, nous autres adultes, David Gourion ?
Oui, on peut l'être, notre société peut l'être. Hein, le message qu'on véhicule, il n'est pas simple, il y a des injonctions paradoxales. C'est choisissez ce que vous voulez faire comme métier plus tard, mais surtout faites un métier où vous gagnerez bien votre vie. Oui. On est quand même dans une injonction complètement paradoxale. On vous parle d'un climat qui est en difficulté. Enfin, on a un peu pourri la planète. Enfin, je veux dire, notre discours n'est pas toujours très positif. Il y a eu le terrorisme, il y a eu les attentats, donc il y a eu des choses difficiles. Mais l'adolescence doit rester cette période d'insouciance. C'est notre job, nous les adultes, de faire en sorte que ça reste une période d'insouciance géniale.
David Gourazon, d'ailleurs, vous avez posé la question dans Phosphore, c'est quoi le bonheur aux adolescents ?
Ouais, et alors on a proposé plein on a porté des témoignages ce que on disait en début d'émission, c'est-à-dire que c'est aussi une période où ils veulent non pas des réponses toutes faites, non pas des conseils, mais vraiment entendre leurs camarades ou des gens un tout petit peu plus vieux, des amis du grand frère, de la grande sœur qui peuvent proposer des pistes. Et donc il y a plein de pistes dans lesquelles il y a pas trop le bien-être matériel et les bonnes notes, mais il y a effectivement comment être en accord entre la façon dont on aimerait que notre vie se déroule et la façon dont elle se déroule, et puis beaucoup aussi sur l'émotion, sur le bien-être affectif, parce qu'on a beaucoup d'émotions positives et assez peu d'émotions négatives, mais il y a plein de pistes sur la nature, etc.
Tiens, c'est quoi le bonheur pour toi, Gabriel? Vaste question.
Tu as 2 minutes.
Tu as 2 minutes.
C'est être en accord avec soi-même et avec le monde dans lequel on vit et avec les gens qu'on côtoie.
Zoé?
La musique, je dirais.
Gabriel?
Nos passions.
Cuisiner, je crois, pour toi?
Ah, l'équitation aussi.
Ah, l'équitation aussi.
Oui.
Bon. Vaste question, hein, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, on pourrait y passer 4 heures. Mais j'avais une petite question aussi qui est de savoir, est-ce qu'on peut pas prendre le problème un peu à l'inverse et dire au fond que, de toute façon, il va bien falloir qu'il y ait une rupture? C'est-à-dire qu'il va bien falloir, comment dire, construire sa propre vie, sa propre existence, se détacher de sa famille et entrer dans la société. Donc, de toute façon, il va bien falloir passer par là. Est-ce que on n'a pas aussi besoin de ce moment un peu de rupture de l'adolescence? Est-ce que c'est pas un moment aussi où finalement, dans un peu la crise, tout se structure?
Si, bien sûr. Je vous êtes philosophe. Moi, je suis très très nietzschéen. Dans Zarathoustra, vous vous souvenez, il y a cette transition. Il dit pour s'accomplir, il faut passer par 3 étapes. Une étape qui est une étape chameau où on porte un peu les bagages qu'on a, les fardeaux, le poids de ce que nos parents nous ont transmis. Si on les avait écoutés si vous écoutiez les parents depuis l'aube de l'humanité, on serait toujours dans des cavernes à se geler sous la pluie. Donc c'est bien qu'il y ait des ruptures en effet à l'adolescence. Puis à l'étape lion, il faut briser tout ça, il faut tout casser pour pouvoir justement briser ces paradigmes-là. Et c'est vraiment le symbole de l'adolescence. Et puis il y a l'étape enfant, celui qui voit le monde d'un œil neuf et qui peut accéder et construire et créer. Et en fait, vous êtes à cet âge incroyable où on crée le plus en réalité, on est le plus créatif, on a le plus, nous on est des vieux cons quoi, on est dans nos paradigmes, enfin moi surtout, pas vous bien sûr, je parlais de moi, mais vous êtes à un âge extraordinaire de créativité. D'ailleurs, bon, on va pas reprendre Rimbaud, etc. Mais je veux dire, vous avez parfaitement raison. C'est pas juste une histoire de transition. L'adolescence, c'est une phase en soi essentielle et magnifique.
Gabriel.
Et parfois difficile.
Bah, on fait bouger le monde aussi, notre génération. Hein, on
bien
le
sûr.
Voit avec l'écologie, la planète. C'est sûr qu'on fait bouger le monde. Hein,
bien sûr.
Parce qu'on est plus conscient, en fait.
Et en fait, c'est aussi une grande période où les parents doivent faire le deuil de l'acceptation par leurs enfants de tout ce qu'ils disent. Parce que avant l'adolescence, il y a très peu de critiques de la part des enfants. Et pour les parents, c'est formidable. Ils sont mis sur un piédestal, ils savent tout, ils sont la référence unique.
Et donc,
et un jour, si l'adolescent a droit à la parole, s'il a droit d'exister, s'il est bien respecté et que les parents n'ont pas trop peur, parce qu'il y a un problème d'angoisse parentale, à ce moment-là, l'ado peut prendre son envol et les parents passent à une autre phase qui, après, arrive à une phase de couple sans enfant. Mais la transition, là, pour eux, peut être tout à fait complexe d'arrêter d'être admirés en non-stop par leurs enfants.
Allez, parents et ados, n'hésitez pas à poser vos questions à nos deux psychiatres au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Dimitri Hénault m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Belle journée à l'écoute de France Inter. 1, 2, 3,
you come.
Outkast, interprété Eya.
Salut, c'est Kevin, alias Puceau 70.
Grand bien vous fasse.
Smiley de grand kiff MDR.
Sur France Inter.
10h24 et nous évoquons quelques questions psy que se posent les adolescents. Standard ouvert aux adolescents et aux parents au 01 45 24 7000. Bonjour Delphine, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, quel est votre témoignage, votre question, Delphine?
Oui, merci. Merci à vous. C'est plus un témoignage par rapport à ce qui vous invitez et sur le fait que les parents ne sont absolument pas accompagnés. Quoi. Mmh. Moi, ma fille, ça fait 4 ans qu'elle est en France. Alors, elle est très bien.
Delphine, on vous entend très très mal, on va essayer de vous rappeler, mais je crois qu'on a compris votre question sur le fait. Delphine, on vous entend très mal, on va vous rappeler.
D'accord.
En tout cas, vous constatez qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, d'aide quand on a besoin d'un pédopsychiatre, David Gourion.
Oui, il y a un problème. Il y a un problème d'accès aux soins. Les parents nous disent bien souvent 3 mois, 6 mois d'attente. On a aussi des problèmes de déserts médicaux en France. Donc oui, il y a un sujet, il y a un vrai sujet.
Marie-Claude Gavard.
Oui, c'est vrai, et ça inquiète beaucoup les parents parce que souvent il y a quand même des urgences. Et bon, effectivement, il peut y avoir l'urgence de l'hôpital psychiatrique, mais pour trouver quelqu'un en ville, c'est difficile, même à Paris.
Alors l'une des grandes questions quand on est adolescent, c'est la question de la normalité. Suis-je normal? Suis-je la seule à ressentir ce que je ressens, docteur David Gourion?
Alors je pense qu'il faut surtout ne pas chercher à être normal. Hein. Soyez ce que vous êtes et devenez ce que vous êtes. Je basculerai la question sur autre chose qui est-ce que je souffre? Je pense que c'est, et en tout cas nous en tant que psy, on est beaucoup plus concernés par cette question de la souffrance que de la normalité. Soyez anormaux, mais si vous souffrez, venez nous voir s'il fallait répondre à cette question de la normalité.
Marie-Claude Gavard.
Oui, moi j'aime bien quand on parle de normalité, répondre tout de suite diversité. Mmh. Parce que nous sommes tous différents et c'est très bien comme ça. Donc effectivement, s'il y a souffrance, il y a un appel à l'aide et faut pouvoir consulter s'il y a besoin.
Gabriel, est-ce que la question de la normalité, c'est une question qui vous agite, qui vous interroge, Gabriel?
Bien sûr, mais je pense qu'on cherche la normalité, mais quelque part on cherche aussi à être nous et à se faire remarquer, à être unique. Du coup, il y a un paradoxe entre ces deux trucs-là.
Sur ce paradoxe, Zoé?
Je pense que le fait de, par exemple, d'aller tous les jours au lycée, de se retrouver avec, entouré de tous les adolescents qui cherchent tous la normalité, et le fait d'être bien jugé par autrui, ça nous conforte aussi à nous habiller comme tout le monde, à tout ça. Enfin, je m'en suis rendu compte en n'allant plus au collège ou quoi, que après je m'étais beaucoup plus affirmée sans avoir ce regard omniprésent des adolescents, pas seulement des adultes, sur nous.
Gabriel,
moi c'est vrai qu'il y a 2 ans par exemple, je voulais toujours ressembler à quelqu'un, m'habiller comme les autres, avoir les mêmes chaussures, et puis maintenant ça a complètement changé. J'ai mon style, on est tous différents, on a chacun une façon de penser, puis c'est nous quoi, on est nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut.
J'ai une patiente adolescente qui me résumait sa classe en disant, voyez, c'est une pyramide. En haut, il y a les populaires. En bas, il y a les cassos. Moi, je suis un peu au milieu. J'essaye de monter un peu. Alors, ça implique de faire un peu comme les autres, mais en même temps de se différencier. Mais je risque vite de retomber en bas. C'était intéressant, cette vision pyramidale de la sociologie de la classe, de chacun essaye de devenir populaire. C'est exactement ce que vous disiez.
Et c'est vrai.
C'est difficile à la fois de s'intégrer et en même temps d'être un individu différent.
Gabriel, tu disais?
Oui, c'est vrai. Oui, complètement.
Et toi, tu te situes où?
Je sais pas, au milieu, on va dire.
Au milieu. David Groison.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi, il y a des échappatoires, finalement, aujourd'hui. Il y a la vie dans le collège ou dans le lycée. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Il y a la musique qui propose plein aujourd'hui de façons d'être qui permettent d'avoir non pas un modèle, un moule, mais de se dire qu'on peut se projeter dans plein de corps différents, dans plein d'histoires différentes, de façons de vivre différentes. Et ça, je pense, ça procure aussi une nouvelle façon de se comporter pour les ados.
Alors, on parlait de réseaux sociaux. Quel rapport vous entretenez avec les écrans, Gabriel?
Pas catastrophique. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux, ça peut être mal utilisé, mais il n'y a pas... Enfin, on peut aussi bien l'utiliser, pas être addict, pas qu'il y ait de rumeurs. Enfin, moi, j'utilise ça plutôt normalement. Et puis, il n'y a pas eu trop de... Après, ça dépend de où on vit ou... Mais je pense que les écrans, c'est un peu l'inquiétude des parents et des adultes de notre génération. Mais il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après. Du coup, il faut un peu...
Inquiétude à juste titre ou pas, docteur David Gourion? Les adolescents que vous recevez dans votre cabinet ont-ils conscience de l'impact des écrans sur le développement de leur cerveau, sur leur capacité d'attention et de concentration, et également sur les risques sur le plan émotionnel, sur les comportements également, quand ils passent beaucoup trop de temps devant les écrans? Est-ce qu'ils ont cette conscience-là?
Non, souvent non, et même nous, les adultes, hein, quand on comptabilise le temps passé devant les écrans, on est souvent étonné du temps passé. Je crois que le problème, c'est pas tant les écrans que la façon dont on les utilise. C'est pour en faire quoi, combien de temps, et ce qu'on a abordé dans la bande dessinée Dr. Feelgood avec Muso, c'est la question de la prise de conscience du temps passé. C'était ça qui nous intéressait. C'était pas de dire oh là là, attention les écrans, c'est dangereux, c'est mauvais pour vous, vous allez mourir. Ils voient leurs parents utiliser leurs écrans. C'est comme les parents qui disent à leur gamin, faut pas fumer. En fumant eux-mêmes. On a tous un problème avec les écrans. C'est compliqué, c'est génial. La question, c'est prenez-en conscience pour essayer d'avoir un peu de contrôle sur le truc.
Comment leur expliquer cette attraction pour les écrans et les réseaux sociaux? Vous le rappelez dans votre bande dessinée, notre cerveau est accro au plaisir. Cette machine à plaisir a besoin de sa dose de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir.
C'est très récompensant un écran, c'est chatoyant. Regardez même, c'est hallucinant comme les enfants à partir de 1 an et demi, 2 ans sont hypnotisés par les écrans. C'est magnétique un écran, c'est chatoyant, c'est beau, il y a des couleurs, c'est incroyable. Et puis c'est facile, c'est une nourriture facile, il n'y a pas d'effort intellectuel. Le livre, il faut produire un effort intellectuel, il faut, etc. Donc le propos, c'est pas du tout de diaboliser, mais de dire attention, il y a peut-être un bon usage de l'écran à réfléchir, et on a un peu de retard sur cette réflexion en France.
Mais comment apprendre aux adolescents à dresser ce cerveau accro à la dopamine? Vous le martelez dans votre livre, ils ont le pouvoir de décider.
On prend la métaphore d'un chat d'appartement. Moi, j'ai un chat, je sais pas si vous avez des chats. Et le chat d'appartement, on lui donne ses croquettes, c'est facile, il a sa nourriture, le cerveau a sa dopamine, facilement accessible. Et qu'est-ce qu'il fait, le chat d'appartement? Comme il bouge pas beaucoup, il grossit, il s'empâte, et puis il est tranquille. C'est un peu ce qu'on fait avec notre cerveau quand on lui donne une récompense extrêmement facile. À l'inverse, le chat qui, pour obtenir sa récompense, doit chasser, doit produire un effort, va être un chat svelte, élancé et agile. C'est un peu pareil pour notre cerveau. Il faut qu'il y ait des moments de repos et des moments de loisirs, bien sûr. Mais il faut qu'à certains moments, ce soit un peu compliqué d'obtenir cette récompense. Parce que si elle est trop facile à obtenir, eh bien, on ne va plus aller la chercher. Et donc, on ne va plus construire des choses qui nous permettent d'avancer.
Comment on s'y prend concrètement?
On s'y prend concrètement en essayant peut-être de doser. Doser, c'est prendre conscience de... En fait, on a parlé tout à l'heure de la question du sens. Le bonheur, ce qui est central dans la question du bonheur, c'est la question du sens. On a besoin que nos vies aient du sens. La question des choix que vous ferez plus tard pour vos métiers, la question des choix de vie, la question de vos loisirs, de vos amis. On revient toujours à la question du sens. Et si vous partez de la question du sens, pour parvenir à ce chemin-là, pour faire ce chemin-là, il va falloir accomplir des choses. Et la question, c'est que vous n'êtes pas... vos journées n'ont que 24 heures, vous ne pouvez pas vous cloner, donc vous n'êtes pas doté du don d'ubiquité. Donc la question, c'est si vous voulez parvenir à accomplir ce chemin qui va donner du sens à vos existences et vous permettre d'obtenir, je connais pas la définition du bonheur, mais en tout cas du bien-être, il va vous falloir construire des choses. La question, c'est que si vous passez 12 heures par jour comme un certain nombre d'adolescents sur des jeux tout à fait passionnants, moi-même j'aime beaucoup jouer, ça va être compliqué de construire des choses qui vont donner du sens. Donc la problématique, elle est vraiment, soyez maître de vos existences. Soyez maître de vos existences.
Expliquez-nous la méthode 5-5-5.
Oui, alors la méthode 5-5-5, c'était un petit truc pour comment on fait pour se lever du canapé et pour pas se transformer en chat d'appartement. Finalement, notre cerveau, pour le dresser, pour essayer de ne pas être son esclave d'une certaine façon. Les drogues nous rendent esclaves du cerveau. C'est la définition d'addiction, c'est esclave, l'étymologie du mot. Il faut lui proposer des récompenses. Mais parfois, c'est difficile, se lever du canapé, j'y suis bien. Il faut lui proposer des récompenses, soit réelles, soit en imagination, en anticipation. Et des récompenses en anticipation, c'est qu'est-ce que je vais faire si je me lève là tout de suite maintenant, de mon lit, de mon canapé, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire de sympa dans 5 minutes? Qu'est-ce que je pourrais faire dans 5 heures? Et qu'est-ce que je pourrais faire dans 5 ans? Ça vous projette aussi dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je bouge tout de suite, ça aura un impact sur ce qui va se passer dans 5 ans. C'est ça la méthode. Faut lire le livre, on va pas tout donner.
Vous arrivez à vous projeter dans les 5 ans qui viennent, Gabriel?
Pas du tout.
Zoé?
Oui, plutôt, mais... Pour moi, c'est plus facile vu que je sais déjà ce que je veux faire. Je sais que c'est plus difficile pour la plupart des ados qui n'ont aucune idée.
Qu'est-ce que tu veux faire ?
J'aimerais bien être dans la musicothérapie. Mm-hmm. Donc, au moins, je sais un peu ce que je veux faire, les études, etc. Mais je sais que c'est pas le cas de beaucoup d'adolescents. Donc, c'est aussi difficile pour ça.
Et toi, Gabrielle ? Tu arrives à te projeter dans 5 ans, 10 ans ?
Non, pas du tout, parce que je sais pas du tout ce que j'aime, ce qui me plaît. Du coup, bah, c'est compliqué. Mais quand je saurai...
Thibaut de Saint-Maurice, vous saviez ce que vous vouliez faire à 15 ans, oui. Professeur de philosophie?
Pas du tout. Moi, je voulais prendre votre place, je voulais être journaliste.
Et ben moi, vous savez, je rêvais d'être François Truffaut, Stanley Kubrick, vous voyez, à 15 ans. Voyez. Et il est temps de retrouver votre ordonnance philosophique, tiens, parce que vous avez la parole.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous nous proposez comme ordonnance?
Ben, je vais essayer de m'y coller, hein, c'est-à-dire essayer de proposer cette semaine un traitement qui est sans doute encore assez expérimental, hein, je vais vous le soumettre, mais peut-être assez prometteur aussi pour ni plus ni moins essayer de soulager les effets de la fameuse crise d'adolescence, qu'elle soit réelle, hein, ou supposée. Alors désolé, le traitement ne s'adresse qu'aux ados eux-mêmes et pas à leurs parents, hein. Mais bon, s'il est efficace, les parents devraient aussi finir par en profiter, avec au fur et à mesure moins de portes claquées et moins de réponses en « je sais pas » et plus de conversations pendant les dîners. Alors l'un des problèmes de l'adolescence, on l'a un peu dit, c'est qu'elle existe d'abord comme une double négation. On n'est plus un enfant et l'on n'est pas encore un adulte. Difficile donc de savoir ce que l'on est et qui l'on est. En quelques mois, on n'est plus ce que l'on a été et l'on n'est pas encore ce que l'on sera. L'adolescence est une rupture qui dure, une transition aussi, toute pleine de changements. Et c'est l'âge par excellence du devenir dans lequel l'identité est en crise.
Comment donc soigner cette crise de l'identité ?
Eh bien, précisément en profitant pour modifier peut-être notre conception de l'identité personnelle. Voilà, rien que ça. Et pour ça, on peut aller piocher dans la philosophie de Paul Ricoeur un concept, le concept d'identité narrative. Pour Ricoeur, ce concept permet de repenser notre identité comme, il le dit lui-même, un tissu d'histoires racontées. C'est-à-dire en fait comme un ensemble de récits que nous faisons de nous-mêmes et qui finissent par raconter qui nous sommes. Ça veut dire que j'ai pas une identité définie dès ma naissance, et ça veut dire aussi que je n'ai pas besoin d'attendre une nouvelle identité d'adulte. Parce qu'au contraire, mon identité, elle va se construire à travers le temps et les changements dans les récits que je vais être capable de construire et de faire évoluer. Alors ce concept d'identité narrative, il a, je crois, un double avantage. Il permet de penser l'identité d'un être qui change, premier avantage, et il nous donne la possibilité d'être nous-mêmes. Les facteurs, les auteurs de notre identité à travers les récits qu'on va être capable d'en faire. Et ça, je crois que c'est le deuxième avantage. Voilà, le principe actif de ce concept, c'est de tisser de la continuité, de tisser du lien contre la crise du changement à travers une histoire dont on va construire peu à peu la cohérence. Avec ce traitement à base d'identité narrative, les ados n'ont plus besoin de faire le deuil d'une identité perdue d'enfant, et ils n'ont plus besoin non plus d'espérer une sorte de future identité mythique, hein, d'adulte. Ils ont juste à tisser eux-mêmes les récits, à les forger, à les essayer, et puis parfois à les abandonner ou à les faire évoluer, pour que peu à peu la cohérence de la vie puisse apparaître. Alors voilà, sous cet angle, l'adolescence n'est plus forcément l'âge de la crise ou de la rupture, ou du moins plus seulement, mais peut aussi devenir un âge de liaison et de continuité. Alors bien sûr, entre les différents âges de la vie, mais on l'a dit aussi et entendu au début, entre soi et les autres, et une liaison aussi entre soi et le monde. Le défi, c'est plus de devenir quelqu'un d'autre ou quelqu'un de nouveau, mais plutôt de continuer à devenir ce qu'on est, une sorte d'être en perpétuel changement, qui ne peut se comprendre qu'en acceptant de se raconter sous toutes les coutures. Et puis, pour y parvenir, tout est bon. Le sport, la musique, l'écriture, la danse, les amis, la fête. Accepter juste de devenir, comme aussi le dit Ricoeur, auteur et lecteur de sa propre vie. Ça, au fond, ça peut être vécu parfois difficilement, hein, le sentiment que désormais notre identité dépend de nous et plus seulement de nos parents. En fait, le sentiment qu'on est désormais en première ligne.
Gabriel, tu n'as pas compris ma question tout à l'heure, mais est-ce que tu as bien compris la chronique de Thibaut de Saint-Maurice ?
J'ai compris la moitié.
Ah, mais c'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. Marie-Claude Gavard.
Oui, alors je trouve que c'est très intéressant de voir cette évolution qui est tellement stimulée pendant l'adolescence. Et aussi, j'insiste sur le fait que quand on est adulte, et ça je le dis aussi aux jeunes qui sont là, c'est on n'est pas figé. Hein. En principe, une personnalité se développe durant toute la vie, et c'est ce qui est passionnant. Et quelquefois, on voit des adultes, on dit oh, ça y est, il fait sa crise d'adolescence. Et en fait, non, c'est juste un nouveau changement, une autre façon de voir les choses, et une nouvelle chance que l'on se donne. Donc, l'adolescence est une période fabuleuse d'ouverture, mais qui peut durer toute la vie, en fait.
David Gourion.
Il faut qu'elle dure toute la vie.
Oui.
David Croison.
Moi, je trouve ce qui est beau aussi avec ce concept d'identité narrative, c'est qu'une histoire, on voit bien qu'il faut des hauts et des bas, que c'est pas de traverser la vie sur des pavés dorés avec des applaudissements sur les côtés. C'est que il faut pouvoir dire je vais mal. Et ça, c'est en ça que votre livre, David Gourion, est génial. C'est-à-dire que d'un coup, dire je vais mal, on peut se dire, eh ben, on va aller consulter des spécialistes, et c'est pas dramatique, et c'est pas angoissant, et vous le racontez une séance de psy avec beaucoup d'humour, de légèreté, et on se dit, bah voilà, c'est un élément de notre histoire. Qui est pas une phase que d'un coup on est chez les fous.
Et tout à fait. Et ça, c'est très important de le souligner. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est que la psychothérapie, chaque rendez-vous, c'est un rendez-vous avec vous-même. Donc, on n'est pas fou quand on va avoir un rendez-vous avec soi-même. On avance et c'est une chance extraordinaire que l'on se donne. Et moi, je trouve que si il pouvait y avoir un système où tous les jeunes avaient la possibilité assez facile de commencer une thérapie pour faire le point de ce qui s'est passé bien et mal dans l'enfance, ce serait un plus formidable.
Merci pour votre critique qui me touche beaucoup. Néanmoins, la souffrance psychique, ça reste extrêmement stigmatisé chez les adultes et chez les adolescents. Les gens qui prennent un arrêt de travail pour dépression vont jamais dire que c'est pour dépression, ils ont une sciatique. Et même entre adolescents, je vois bien, ça reste quand même... Alors, on en a parlé, il y a des médias qui commencent, il y a des séries, télévision, il y a des choses qui bougent, mais il faut bien considérer et comprendre que la stigmatisation, c'est-à-dire le fait de montrer du doigt celui qui a un problème, une souffrance psychique, comme étant l'autre, le fou, qui est totalement différent de moi, d'abord c'est faux, parce qu'on peut tous être concernés au cours de la vie par une période de souffrance psychique, et puis d'autre part, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que c'est une double peine. C'est-à-dire que l'adolescent qui est en souffrance, non seulement il a sa souffrance, mais en plus, il a une deuxième peine, une deuxième punition qui est les autres me rejettent et considèrent que je suis différent.
Zoé.
Oui, alors c'est vrai que souvent l'image que les adolescents peuvent avoir par rapport à ça, je suis assez d'accord avec vous, c'est ouais bah il va chez le psy, il est un peu fou ou quoi. Pour l'avoir connu, j'ai déjà eu ce genre de remarques pour y aller. Et je trouve ça totalement étrange, c'est-à-dire que moi je l'assume, je vois une psychologue depuis mes 8 ans et pourtant enfin tout va très bien. J'ai aucun problème mental ni rien, mais je pense que c'est important. C'est important parce que voilà, c'est un rendez-vous avec soi. Ça nous aide à faire le point, surtout quand, peut-être pas dès l'enfance, mais en tout cas à l'adolescence où il y a tous ces changements et toutes ces questions qu'on se pose. C'est hyper important de pouvoir faire le point des fois avec un point de vue extérieur parce que nous, on prend tout hyper à cœur à cet âge-là. Et on se rend pas forcément compte aussi des fois de choses qui sont trois fois rien et qu'on va prendre vraiment à cœur et on va nous aider à relativiser avec ces séances, etc.
Allez, vous pouvez réagir au 01 45 24 7000. Laura Cahen interpréter La Complainte du Soleil.
France Inter. Grand bien vous fasse.
11h moins le quart et nous évoquons quelques questions que se posaient ZDO avec les psychiatres Marie-Claude Gavard et David Gourion et avec le rédacteur en chef de Phosphore, David Groison, et trois adolescents très très bavards, Gabriel, Zoé et Gabriel. Un mail de Daniel qui nous dit « Vous devriez parler des points accueil-écoute jeunes qui sont présents sur de nombreux territoires et permettent d'accueillir facilement la parole d'un jeune en souffrance et vous pouvez vous rendre sur le site de l'ANPAEJ, A-N-P-A-E-J. Alors l'un des grands facteurs de stress pour les adolescents, c'est la pression et la compétition scolaire. Il y a 15 jours, Télérama consacrait un dossier aux ados au bord de la crise de nerfs avec des professionnels de santé qui s'alarment du burn-out scolaire qui touche de plus en plus d'adolescents. Gabriel, Zoé, Gabriel, vous ressentez cette pression scolaire, Gabriel?
Oui, par les professeurs, premièrement, et par aussi la famille, parce que moi, j'ai trois grandes sœurs et elles ont des très bons résultats et tout, du coup, voilà. Bah, ça met un peu la pression. Et puis, les examens, on en parle beaucoup, du coup, ça... Et puis, les rapports entre les autres élèves aussi, voir comment eux, ils travaillent, comment nous, on travaille, de pas être traité d'un télo si on a des bonnes notes, quand même compliqué.
Zoé.
Alors oui, la pression scolaire, bien sûr, je la ressens pas mal. Donc pour avoir fait une phobie scolaire à partir de ma quatrième et le fait, enfin je pense que c'est surtout le système scolaire qui peut pas être adapté à tout le monde et qui mise tout sur les résultats plutôt que le travail qu'on donne pour apprendre et donc voilà c'est assez dommage.
Gabriel. Est-ce que tu ressens, ou là, je sens que tu ne sens pas du tout une pression scolaire sur tes épaules?
Peut-être au collège un peu, mais ouais. au niveau de ma famille, pas du tout.
Marie-Claude Gavard, comment on peut aider ces collégiens, ces lycéens, ne pas perdre pied face à cette obsession de la réussite et cette compétition scolaire exacerbée?
Ben déjà, il faudrait que les parents soient moins anxieux quant à l'avenir de leurs enfants. Parce que souvent ils mettent la pression, ils peuvent même dramatiser. Moi j'ai eu un patient qui était très inquiet parce que en maternelle son enfant n'avait pas eu de gommette en mathématiques. Vous voyez bon, donc le drame commençait. Alors maintenant on peut voir que la période scolaire, collège, lycée, prépa après, c'est la période que je trouve personnellement totalement aberrante d'un nombre d'heures de travail qu'on ne va jamais rencontrer à l'âge adulte. Donc c'est extrêmement malsain au niveau physique. Il y a une fatigue psychologique étonnante et le système est à réviser et on voit les jeunes en prépa qui sont dans des situations très difficiles.
David Groison, vos lecteurs, les lecteurs de Phosphore, reviennent souvent sur cette question-là.
Sur la pression scolaire, bah bien sûr. Et alors, nous, notre raison d'être, c'est aussi d'ouvrir le champ en disant, voilà, la vie, c'est pas que les notes. Et on pourrait renvoyer aussi la question aux parents, c'est-à-dire d'accueillir les ados le soir en rentrant en disant, t'as eu des notes. Voilà, il y a peut-être d'autres trucs à discuter. Et de se dire qu'on peut discuter de la marche du monde, on peut discuter des amis, on peut discuter des amours et plein d'autres choses.
David Gourion, cette pression scolaire peut sérieusement entamer l'estime de soi quand on établit, par exemple, une corrélation entre sa note et sa valeur personnelle?
Bien sûr, et ça peut avoir un impact en termes de souffrance psychique. Hein. On connaît les phobies scolaires, on voit des situations de détresse. Mais vous savez, la question de la pression scolaire, c'est dès l'enfance, c'est pas une problématique de l'adolescence. Moi, j'ai vécu à titre personnel parce que quand mes enfants étaient en bas âge, je suis allé au Canada. Ils sortaient du système école primaire où on avait l'impression que c'était dramatique, ils finiraient dans le ruisseau s'ils avaient pas eu la bonne note, et on arrive au Canada où ils dessinent une patate, on leur dit amazing, c'est fantastique, avec un système beaucoup plus centré sur l'estime de soi. Ce qui veut pas dire qu'il est pas compétitif du tout, hein, parce que McGill, tout ça, ils sont quand même très bons, mais le contraste, il faut avoir vécu à l'étranger pour voir le contraste. On a un système qui est prisonnier de la performance.
On en avait parlé ici, à l'IRBI, sur effectivement les bonnes pratiques à importer, notamment du système américain, scandinave, et c'est ce mot un peu valise, mais de bienveillance, c'est-à-dire de comment on peut porter le jeune dans toutes ses dimensions et pas uniquement sur une forme de performance.
Oui, il faut, je trouve, penser au bien-être. Hein, il y a les résultats, il y a le bien-être, c'est-à-dire il y a la vie de tous les jours. Est-ce que le jeune est heureux ou non? Et s'il ne l'est pas vraiment, on peut peut-être faire des choses.
Bonjour Gérard, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous n'êtes plus adolescent, hein, depuis quelques temps. Mais quand vous étiez adolescent, vous la ressentiez, cette injonction à bosser, à bien bosser, à rapporter des bonnes notes?
Non, pas du tout. Moi, j'ai 55 ans, j'ai une éducation à l'ancienne. Mm-hmm. Et donc, l'injonction, c'était de travailler, mais travailler un travail professionnel, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Il n'y avait que ça qui était important. Il fallait qu'on bosse. Pour trouver un travail, qu'il soit bien ou pas bien, c'est pas grave, il fallait travailler. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, on leur met une injonction énorme, c'est réalisez-vous, soyez heureux, faites ce que vous voulez, du moment où vous êtes heureux. Mm-hmm. Et je trouve que là, on leur met une pression énorme. Mm.
Merci beaucoup.
Moi, je ne sais pas ce que je voudrais faire plus tard.
Vous avez encore le temps à 55 ans. Vous avez le temps. Même moi, je ne sais pas trop ce que je vais faire plus tard. Vous voyez, je suis en pleine réflexion. Merci beaucoup, Gérard, pour votre appel. Alors, David Gourion, dans votre livre, hein, Dr. Feelgood, vous abordez plusieurs thèmes, et notamment le fait que beaucoup de parents s'inquiètent à l'idée que leur adolescent prenne de la drogue, en particulier du cannabis. Il faut rappeler que le cannabis mime les effets de la dopamine. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe dans le cerveau quand on fume un joint? Qu'est-ce qui se passe?
Alors c'est hyper compliqué parce qu'en fait le cannabis agit sur plein de sortes de récepteurs différents, mais notamment les récepteurs à la dopamine dont on a parlé tout à l'heure. Qui est ce circuit de récompense? C'est ce même circuit qui est activé quand on prend du plaisir, parce qu'on mange, parce qu'on a une relation sexuelle, parce qu'on gagne de l'argent, parce que tout ce qu'on veut. Le tabac aussi active ce système, l'héroïne, la cocaïne active ce système. Donc il y a un rôle. Nous, les psychiatres, c'est vrai qu'on est toujours un peu traumatisé par l'histoire du cannabis parce qu'on a eu plein de patients arrivés aux urgences. Moi, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital Sainte-Anne, j'étais chef de clinique. Le nombre de patients qui arrivaient, d'adolescents qui arrivaient en grande bouffée délirante aiguë avec des hallucinations, entendant Dieu qui leur parlait, le diable, etc. parce que il y avait une consommation massive de cannabis.
Il faut rappeler...
Enfin, pas parce que. Ce que dit la science aujourd'hui, c'est probablement y a-t-il une vulnérabilité sous-jacente, peut-être des facteurs génétiques, mais en tout cas avec précipité le cannabis précipitant. Donc on a vu ces états-là. Ce qui est super compliqué, c'est que pour un adolescent aujourd'hui, ne pas fumer de cannabis devient plus un marqueur de je suis peu sociabilisé. C'est-à-dire que quand vous avez les stats qui sont à peu près 50% des 17 ans disent qu'ils ont consommé dans les 3 mois, celui qui ne consomme pas, c'est celui qui est peu invité dans les soirées, qui est pas très fun, etc. Donc la problématique, elle n'est pas de dire nécessairement c'est dangereux pour tout le monde, il faut dramatiser. Je pense que c'est pas de la bonne prévention. En France, on est mauvais en prévention. On est en tête des pays d'Europe, hein, sur la consommation de cannabis. On est super mauvais. C'est de faire de la prévention ciblée, c'est-à-dire là encore, ça dépend des jeunes. Tous n'ont pas le même profil de vulnérabilité. Ça dépend de la modalité de consommation. C'est pas la même chose. Le jeune qui prend 3 bouffées une fois tous les 3 mois et celui qui fume 15 joints en commençant le matin toute la journée, etc. Et avec des profils différents.
Mais est-ce que, par exemple, dire à un adolescent que le cannabis peut déclencher des effets proches d'une maladie comme la schizophrénie, puisque le cannabis est une substance, vous le rappelez dans votre livre, psychotomimétique, c'est-à-dire qu'elle imite, que le cannabis imite les effets de la psychose. Est-ce que ça, par exemple, c'est utile de le dire à un adolescent?
Mais bien sûr, et même la plupart des adolescents qui fument régulièrement du cannabis, sans rentrer dans la schizophrénie, vont expérimenter des symptômes psychotiques à bas bruit.
Hallucinations, hallucinations, délire de persécution, perte de motivation, détachement du réel.
Exactement. C'est rare que les consommateurs réguliers ne vous disent pas « oui, j'ai fait un bad trip, j'ai fait un coup de parano, etc. » Ce sont des symptômes psychotiques. Sauf que s'ils deviennent permanents, ça devient une maladie qui s'appelle la schizophrénie.
Sur cette question du cannabis, Gabriel
Qui est Gabriel
devant moi.
Oui, alors je pense que ça dépend aussi de nos fréquentations. Hein. Ça joue beaucoup avec qui on traîne et puis on veut toujours... rentrer dans la société, faire comme les autres, la normalité justement, et donc forcément on va avoir quelqu'un qui fume, donc après ça va nous donner envie ou on va nous encourager à fumer, ce qui est pas forcément très bien. Enfin, je trouve que c'est un peu grave quand même d'encourager quelqu'un à fumer, surtout que c'est mauvais et très néfaste pour la santé. Donc
Ça c'est un discours qui te parle, la dangerosité sur ta santé physique, oui, psychologique.
Oui, beaucoup.
Zoé.
Je pense que oui, t'as raison, Gabriel, ça joue. Enfin, les fréquentations jouent beaucoup. Après, aussi, il y a des profils, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur qui ça va faire un effet. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais il y a des gens sur qui ça fera moins d'effet que d'autres personnes qui sont déjà pas stables, où ça va juste accentuer leur leurs soucis et leurs problèmes mentaux, etc. Donc je pense aussi que ça dépend, même pour devenir accro ou quoi, ça dépend des profils. Et ça peut concerner pas mal de jeunes.
Vous le rappelez dans votre livre, David Gourion, savoir dire non, c'est savoir dire je.
Bien sûr. Bien sûr. Oui. On parlait tout à l'heure de cette complexité de il faut à la fois s'intégrer dans le groupe, mais en même temps s'individualiser. Et savoir dire non dans une soirée, mais même pour nous adultes, refuser un verre de vin quand on n'a pas envie, dis donc, t'es pas marrant. Donc, pour un adolescent, refuser du cannabis, c'est un peu refuser parfois le calumet de la paix.
Un petit truc efficace, si on vous propose de l'alcool ou du cannabis et qu'on n'a pas envie d'en prendre, vous le rappelez dans votre livre, c'est la technique du disque rayé.
Oui. Alors moi, je suis très fan de la technique du disque rayé parce qu'elle n'est pas fatigante. Elle consiste à redire la même chose en se paraphrasant et en
gentiment,
disant de plus en plus gentiment,
sans s'énerver.
Je l'ai beaucoup utilisé avec ma fille à l'époque où elle voulait beaucoup sortir trop tard dans la semaine et qu'elle avait travail le lendemain. Et je lui disais non, ma chérie, j'aimerais beaucoup te faire plaisir, mais c'est pas possible. Elle me redemandait et à la 12e fois, en général, comme elle savait que j'allais continuer le temps qu'il faudrait, ça finissait par marcher. Le disque rayé marche bien. Il vous permet de tenir votre nom sans vous laisser convaincre. Sans vous laisser influencer, ne vous justifiez pas, parce que si vous vous justifiez, c'est la fille qui veut pas sortir avec le garçon en disant j'ai un petit ami, mais il faut pas le justifier quand on ne veut pas quelque chose. Il faut savoir dire non. Ça n'est pas si simple, c'est une façon de grandir dans l'existence.
Marie-Claude Gavard.
Et lorsque vous demandiez s'il fallait informer des dangers, je crois qu'il faut informer, mais très tôt. En fait, ça fait partie de l'éducation et dans tous les domaines, l'information est importante parce que elle n'est pas dans la dramatisation, elle est dans le factuel.
Pour terminer, David Gourion, dans votre livre, vous vous référez à l'empereur philosophe Marc Aurèle pour apprendre aux adolescents à préserver leur estime de soi face au regard des autres. Marc Aurèle qui prend l'exemple d'une émeraude dont la valeur intrinsèque ne change pas en fonction des appréciations des uns et des autres.
Oui, je trouvais cette métaphore d'une actualité saisissante. Il faut lire et relire Marc Aurèle. Lisez-le, les adolescents, c'est très bien. Il faut lire Sénèque aussi. Vous êtes des émeraudes, c'est-à-dire que certains vont juger l'émeraude en disant « elle est petite, elle est pas assez bien, elle est machin ». D'autres vont dire « elle est magnifique, jamais vu une émeraude aussi exceptionnelle ». Ça ne change rien. Le jugement des autres ne change rien. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes de magnifiques émeraudes, il faut vous le répéter.
Bon, ben merci aux émeraudes Gabriel et Zoé. Merci beaucoup David Gourion, la bande dessinée avec le dessinateur Muso, Dr Feelgood est publié chez Odile Jacob. Merci Marie-Claude Gavard. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête est publié chez Marabout. David Groison, donc à la une du nouveau Phosphore, un dossier consacré
au bonheur.
Et merci Gabriel, Zoé et Gabriel. J'aimerais que vous reveniez parce qu'il y a des tas de sujets que nous n'avons pas abordés ce matin. J'aimerais que vous reveniez régulièrement tous pour parler de problèmes ou de bonheur liés à l'adolescence. Et merci également à Thibaut de Saint-Maurice. N'hésitez pas à poursuivre notre conversation sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Demain, on s'intéresse au piège du commerce en ligne. On évoquera notamment le Black Friday, ce matraquage commercial qui nous incite à surconsommer. Nous attendons toutes vos questions sur les fausses bonnes affaires d'Internet. Nous attendons également votre opinion sur ce fameux Black Friday, ce vendredi noir. Allez-vous boycotter cet événement ou vous y précipiter? 01 45 24 7000 et dès maintenant sur l'appli France Inter.